on est toujours sur le salon, donc des cépages et terroirs oubliés. Et maintenant, on va du côté de Gaillac. On traverse la France. On se balade. Ça, c'est formidable quand même, parce que comme quoi on peut en un même endroit vraiment voyager. C'est un peu Jules Verne qui ne sortait pas de sa chambre et qui écrivait des choses magnifiques sur les explorations. J'accueille maintenant Michel Issali du domaine de la Ramaille. Bonjour Michel.
Bonjour.
On dit ramaille ?
On peut dire ramailler.
Ramailler.
Ramé.
D'accord.
Mais en fait, aujourd'hui, on dit Michel Issali, puisque j'ai pris le nom personnel en termes de marque.
D'accord. Très bien. Voilà. Et eh bien, alors, donc, maintenant, domaine Michel Issali.
Voilà.
Parfait. Et donc, on est bien à Gaillac.
On est à Gaillac.
Gaillac même.
Ah, c'est les hauts de Gaillac. On est sur la première côte, c'est-à-dire la partie historique de ce vignoble qui domine la ville de Gaillac, puisque Gaillac est le plus vieux vignoble de France.
Je ne savais pas. Alors, c'est certifié conforme ?
Alors, c'est en cours de certification. C'est le ministère de l'Agriculture qui, aujourd'hui, a le dossier dans les mains, puisqu'il a été retrouvé des pépins de raisin sur des jarres ou amphores et qui peuvent dater que, effectivement, ce vignoble date d'avant Jésus-Christ.
Fort bien, comme quoi. Alors, non seulement on voyage en France, mais on voyage aussi dans l'histoire. Ça, c'est fabuleux.
Exactement, puisque de la vigne, il y en a toujours eu un petit peu partout en France. Elle poussait naturellement. Mais la fabrication du vin, la vinification, a été amenée en partie par les Romains. Il y avait deux zones où il y avait une vinification. C'était la côte rôtie et le vignoble de Gaillac.
D'accord. Ben, comme quoi, on n'est pas si loin finalement. On va dire qu'il y a une petite appellation qui est tradition paysan. C'est quoi ce tradition paysan?
Alors ça, c'est marrant parce que j'avais travaillé à l'époque, quand j'avais des responsabilités nationales, j'avais travaillé sur le dossier étiquetage au niveau européen. Et on avait créé pour les vignerons indépendants de France un terme qui pourrait reprendre ce qu'était un vigneron indépendant et qui serait indiqué de manière officielle sur l'étiquette. Mmh. Et on avait fait plusieurs réunions et on était arrivé à tradition paysan, qui avait été repris dans le premier texte européen et qui finalement, au bout du compte, n'a pas été repris. Et j'avais demandé au service des fraudes à l'époque, ça remonte à il y a plus de 20 ans, si je pouvais utiliser ça sur l'étiquette. Ils m'ont dit non, il n'y a pas de problème. Uh-huh. Et en fait, je l'ai toujours gardé parce que c'est quelque chose qui me touche, paysan, tradition, parce qu'on est dans cette mouvance où on essaye de retrouver ce que faisaient nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents. Donc on est vraiment sur une tradition paysanne. Et on avait préféré paysan que paysanne, parce que logiquement,
on devrait dire tradition
paysanne. Et en fait, ça nous paraissait être plus fort le terme paysan. Mm-hmm. Et moi, c'est quelque chose qui, me semble-t-il, me correspondait un petit peu.
Oui, puis dans paysan, il y a pays et c'est... Enfin, voilà,
et l'ancrage.
On est vraiment dans l'ancrage et dans les racines, effectivement.
Exactement, ouais.
C'est marrant parce que tu parles de liens. Depuis ce matin, c'est pareil. On parle au-delà de la tradition, on parle du lien entre humains, finalement. Alors, si Gaillac était un des plus vieux, si avant, je ne sais combien, avant Jésus-Christ, les gens travaillaient déjà cette terre pour en tirer, le meilleur, ça c'est évident, mais le meilleur des breuvages, finalement, ce ne sont pas tout à fait les mêmes gestes, et encore que, finalement, il y a certains gestes qu'on retrouve et qui ne changent pas.
La terre est toujours là. C'est la même, même si on l'a abîmée depuis. Mais la terre, c'est notre support. C'est là où se plantent les racines de la vigne. Donc, les gestes de base n'ont pas changé. Il faut toujours entretenir la vigne, aimer la vigne. Il faut l'aider et il faut l'accompagner. Donc ça se fait depuis que la vigne existe et depuis qu'on s'est taillé la vigne.
C'est ça. Et là, il y a effectivement cette filiation. Tout à l'heure, je disais, mais c'est vrai qu'il y a ce fil rouge. Alors, Michel, toi, le domaine Michel Issali, c'est un domaine que tu as créé ou c'est une histoire de famille?
C'est une histoire de famille. Logiquement, je suis partie de la sixième génération, puisque c'était mon arrière-arrière-arrière-grand-père qui avait créé ce domaine. C'est une histoire qui est un petit peu particulière, puisque chez nous, dans le petit village où se situe notre domaine, ça appartenait à un... C'était pas un seigneur, mais c'était un châtelain. Et donc, il avait des dizaines et des dizaines d'hectares. Et il y avait une tradition gaillacoise où c'était des métayers qui travaillaient dans le château. Et il y avait une cloche à Gaillac qui s'appelait la Candeio, qui sonnait à 16 heures. Et donc, elle était très puissante et on l'entendait sur tous les coteaux autour de la ville de Gaillac. Et ça voulait dire qu'à ce moment-là, ils devaient libérer leurs métayers pour aller travailler leur petit lopin de terre. Et on appelait ça, ces gens-là, des métayers, mais des cultivateurs. Et en fait, le premier acte notarié que j'ai trouvé où il y avait vraiment une achat de vigne, c'était en 1847. Mais il se trouve que le père de ce monsieur, donc mon ancêtre, était cultivateur. Mais je n'ai pas trouvé d'acte notarié où il était propriétaire de vigne.
De son lopin.
Voilà, donc le domaine existe depuis 1847, ça on en est sûr. Il a changé de nom avec l'arrivée de mon père, c'était la famille Tools du côté de ma mère. Mm-hmm. Et avec l'arrivée de mon père, c'était la famille Issali. Mais on est quasiment de père en fils ou père en fille.
Donc cette terre, elle est travaillée par les...
voilà, depuis un certain temps.
Alors tu... Il y a d'ailleurs les plus anciennes, je crois, les plus anciennes vignes ont autour de 70 ans.
Oui, 70 ans. Alors, on a malheureusement arraché une partie de ces vignes. Ça a été difficile de se séparer de ces parcelles-là parce que c'était l'histoire. Sauf qu'elles ne produisaient quasiment plus. Mmh. On était sur des rendements très faibles. Et puis, c'était il y a 3 ans en arrière et je souhaitais me développer vers la permaculture. Et on avait 6 hectares et demi. Et faire 6 hectares et demi en permaculture, c'est impossible. Donc, il fallait faire le choix de certaines parcelles. J'ai plutôt pris les parcelles qui étaient autour de la maison, les plus proches. Parce que c'est tellement éprouvant de mettre en place la permaculture. Si on a trop de mètres, de kilomètres à faire pour aller travailler, ça devient impossible à gérer. Donc, voilà, j'ai dû me séparer de ces parcelles-là parce qu'en termes de rentabilité, elles n'étaient plus très, très bonnes. Voilà, c'est une part de l'histoire, mais c'est des choix.
La permaculture, tu peux nous dire quelques mots justement sur la permaculture parce que permaculture, c'est un terme qu'on connaît, on voit à peu près, mais par rapport aux vignes.
Oui, c'est quelque chose qui n'est pas forcément, qu'on n'imagine pas être possible dans la viticulture. On parle souvent de design permacole, c'est-à-dire c'est la conception de la parcelle qui permet de pouvoir considérer qu'on met les pieds dans la permaculture. Donc, on va planter dans le sens de, pas des pentes, hein, mais plutôt de, on garde, j'ai perdu le terme, mais il va me revenir.
La topographie.
Voilà. Et on travaille beaucoup avec des fossés, des petites mares, dont des réceptions d'eau. En fait, la permaculture est un système qui n'est pas inventé. C'est du bon sens paysan. C'est exactement la façon dont faisaient nos ancêtres pour faire l'agriculture. Mmh. Et ça, c'est la base de la permaculture. C'est pour ça qu'on parle de design. Et après, on va travailler sur plusieurs éléments dans la permaculture, notamment la diversité de production. Donc, il n'y a plus qu'une production. Il y a plusieurs productions dans une même parcelle. On parle également d'aspect social. C'est-à-dire que dans un système traditionnel d'une entreprise, on cherche toujours à faire du bénéfice. Ou en tout cas d'avoir un seuil de rentabilité le plus élevé possible. Une fois qu'on l'a atteint, on cherche toujours à aller beaucoup plus haut. C'est comme ça, on avance de cette manière-là. En permaculture, une fois qu'on a trouvé le seuil de rentabilité, on considère que tout ce qui est en dessus doit être partagé. Il est partagé avec son environnement, c'est les humains, c'est la biodiversité qui est autour de nous, les petits oiseaux, les musaraignes, les animaux, enfin tout ce qui est avec nous. Donc si on prend par exemple un arbre qui produit des cerises, eh bien on dit à nos voisins, c'est pour vous. S'ils ne vont pas les chercher, c'est les oiseaux qui vont les manger. Les cerises qui ne sont pas mangées par l'oiseau vont tomber par terre, vont nourrir le sol et vont revenir à la terre et continuer à transformer cette terre, à garder le vivant dans la terre. C'est aussi produire plus d'énergie que ce que j'en consomme. C'est-à-dire que j'abandonne une grande partie du travail au tracteur ou mécanique. C'est pour cette raison que je suis passé de 6 hectares à 3 hectares et demi, parce qu'on est revenu à beaucoup de travail manuel. Et en revenant à ce travail manuel, ben forcément, ça demande de la main-d'œuvre, parce que même sur 3,5 hectares, ce que j'ai aujourd'hui, on est sur des périodes de gros travaux, c'est-à-dire à peu près 6 mois dans l'année, on est 3.
Oui.
Ce qui est beaucoup plus important que sur les autres manières de produire.
C'est clair.
Voilà, le permaculture, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la diversité de production. Donc, on essaye de ramener dans nos parcelles de vignes des arbres. On travaille sur des plantes médicinales, hein, des plantes aromatiques. Hein, on peut aller faire du maraîchage. Hein. Alors ça, je ne m'y suis pas trop tenté encore. J'ai amené des aïacées, mais je me suis mis dans un gouffre de travail, donc j'ai abandonné. J'y reviendrai plus tard si je peux. Et c'est,
Alors j'ai vu aussi sur le... Excuse-moi, je te coupe, mais sur le site, j'ai vu aussi ce mot vitipastoralisme.
Oui, alors ça veut dire qu'on ramène l'animal à l'intérieur de la parcelle de vigne. Alors nous, on le fait avec des moutons, parce que c'est ce qui est le plus simple en termes de gestion. L'idéal serait d'amener des poules, d'amener des canards, d'amener des oies, d'amener des vaches, ce qui se faisait autrefois. Hein. Ils partageaient les parcelles en fonction des animaux qu'ils avaient pour les nourrir. Il y a un lien, qu'on le veuille ou non, il y a un lien entre le végétal et l'animal. L'un et l'autre ont besoin d'être ensemble.
Oui.
Et l'animal dans la vigne, c'est d'abord un contact différent de l'humain, qui n'est pas le même intérêt, parce qu'il y a un intérêt de partage. L'humain n'a pas d'intérêt de partage. L'humain, il voit dans la vigne, malheureusement, plutôt... un élément de rentabilité, c'est un élément économique. Alors que l'animal, lui, il y va pour partager dans la vigne. Donc, il y a des déjections qui vont nourrir le sol et l'entretien qui va être fait de l'enherbement naturel qu'il y a sur la parcelle. Et voilà, donc le côté partage qui est important.
Qui est au cœur.
Alors ça, c'est quelque chose que j'ai laissé un petit peu de côté parce que c'est lourd. En termes de travail, en termes de gestion. Mais si je pouvais aller plus loin, j'aimerais aller plus loin.
Alors, est-ce que les variétés anciennes de cépages gaillacois, est-ce que c'est quelque chose qui existait déjà ou est-ce que c'est quelque chose que tu as apporté ?
Alors, on a eu la chance d'avoir à Gaillac un vigneron qui s'appelle Robert Plajol, hein, qui est très connu dans le monde des cépages anciens, qui a eu cette capacité tout au long de sa vie de protéger et de retrouver des cépages anciens. Donc, c'est le Mozac, le Loin de l'œil, l'Undenc, le Verdanel, c'est les cépages blancs.
Loin de l'œil, encore une fois, on est dans la poésie la plus pure.
L'Endelel. En fait, nos ancêtres, ils constataient des choses et ils leur donnaient un nom, Loin de l'œil, tout simplement parce que la grappe a une queue qui est très longue et qui pousse loin de l'œil. L'œil, c'est le bourgeon. Et donc la grappe se situe à peu près à une dizaine de centimètres de l'œil, d'où loin de l'œil. Voilà, en rouge c'est le duras, le brocol, le prunelard, le duras parce que dans sa vie il faut avoir taillé du duras pour savoir que c'est dur quoi. Et le prunelard, il faut en déguster et on se rend compte que le prunelard c'est de la prune et du lard. Donc la prune, c'est le pruneau, le goût de pruneau. Et le lard, parce que c'est un cépage qui a cette capacité d'avoir du velouté et de venir amener de la douceur dans la bouche, comme le ferait du lard. Voilà, c'est nos 7 cépages gaillacois. On en est fiers. On a su les garder. On a su en retrouver des nouveaux. Et puis, c'est important aujourd'hui de ce cépage-là parce que certains, je pense au Verdanel notamment, en blanc, sont des cépages qui peuvent peut-être nous aider par rapport au changement climatique de s'adapter plus facilement aux problématiques que l'on va avoir dans les prochaines années.
Alors ça c'est quelque chose, c'est pareil, dont on parle régulièrement et avec depuis ce matin on en parle à chaque fois, c'est qu'on se rend compte que ces cépages oubliés, enfin ces cépages anciens, dits oubliés, etc., souvent, alors ne sont pas la panacée, c'est ce qu'on disait avec Florence Monferrand ce matin, mais en tous les cas, souvent un intérêt par rapport au changement auquel on fait face. Ce n'est pas demain, hein, c'est en ce moment qu'on commence à vraiment faire face.
Oui, alors ça c'est quelque chose dont malheureusement, on le voit depuis quelques années. On est touché par ces phénomènes-là. On ne l'envisageait peut-être pas aussi dur que ce qu'on a connu cette année. C'est un millésime qui nous prévient de ce que vont être les années à venir, et peut-être en pire. Et aujourd'hui, il y a les cépages anciens qui certainement portent en eux des éléments d'adaptation, en tout cas de résistance. Ce sont souvent des cépages qui ont déjà traversé d'autres changements climatiques, refroidissement, réchauffement, c'est des cycles qui durent 2-3 siècles à peu près. On sait, nous, à Gaillac, qu'une grande partie de ces cépages-là, pas tous, ont déjà traversé et ont été plutôt résistants face aux précédents changements climatiques. Sauf que les changements climatiques que l'on a eus, et notamment en termes de chaleur, donc réchauffement climatique, étaient moins puissants que ceux qu'ils sont aujourd'hui.
Et puis étalés sur
2-3 siècles. Alors que là, ça se fait en moins de 20 ans ou 30 ans. Donc là, c'est là où on a un doute, ce qui veut dire que l'adaptation au changement climatique se fera par plusieurs éléments, pas que par les cépages, les porte-greffes, la conduite du vignoble, le rezonnage. Avec nous plusieurs manières de pouvoir trouver des solutions, tant qu'on peut, parce que malheureusement, il va plus vite que nous.
Oui, il faut rester très humble.
Ouais.
Très très humble. Et tout ce que tu mets en place fait partie de ça, hein, de cette prise de conscience et puis de préparer l'avenir aussi parce que c'est une autre manière. Malheureusement, là aussi c'est passionnant, donc on resterait très très longtemps. Juste avant d'écouter le titre que tu as proposé, un accord mes vins. Allez, une recette avec un de tes vins.
Oui, du vin de l'oubli. Avec des riz de veau.
Wow.
Et des morilles surtout dedans.
Le vin de l'oubli, c'est quoi ?
Alors, c'est un blanc sec de Mauzac. C'est une vieille histoire du vignoble gaillacois. On est sur ce qu'on appelle des vins de voile. Donc, c'est des vins que l'on a oubliés en barrique pendant une dizaine d'années. Donc, ça donne des vins qui sont très secs, très puissants, très forts. On n'aime pas. Il n'y a pas de juste milieu. Et quand on aime, généralement, c'est vraiment des très, très grands plaisirs. C'est des très belles bouteilles. Et voilà, et ça demande des plats qui ont vraiment du goût, de la consistance et dont on se rappelle.
Très bien. Et ben voilà, à vos casseroles. Et puis avant, ben vous venez à Chabeuil, vous venez au Centre culturel pour découvrir Michel Issaly et puis tous les autres et tous ces magnifiques vins, toutes ces belles choses qu'ils nous préparent et qu'ils nous font. Michel, tu as choisi Pink Floyd The Wall. Est-ce que tu peux nous dire deux mots sur ce choix ?
Oui. Pink Floyd, c'est la vraie musique. Hein. J'ai l'impression qu'on ne sait plus jouer de la musique aujourd'hui. Et puis The Wall, parce qu'il y a un vrai message, hein, le mur. Et quand on est en veine naturelle, quand on travaille de manière un petit peu décalée, il y a un vrai mur entre ce que l'on fait et le côté plus traditionnel, plus conventionnel, où on n'est pas forcément compris. Donc il reste des murs à abattre encore, hein, même dans la viticulture.
Et ben, beau message. Merci beaucoup, Michel.
Teacher.
Pink Floyd, The Wall, c'était le choix de Michel Issali. Vous écoutez Radio BLV 93.6. Nous sommes en direct du 8e Salon des Cépages et Terroirs Oubliés à Chabeuil. C'est au Centre Culturel. Venez, venez, venez. J'espère qu'on vous donne le goût de venir en découvrant tous ces passionnés vignerons et vigneronnes. Vous avez vu, chacun et chacune a sa manière de présenter les choses, mais tous apportent du plus à ce beau métier. Maintenant, c'est Pascal Jamais qu'on retrouve. Bonjour Pascal.
Bonjour.
Alors Pascal, c'est le vignoble de la Tour d'Arras, comme son nom l'indique, Arras, donc Dromois.
Non, alors de choix, rigolez pas avec ça. Hein. Déjà qu'on fait le coup de la cahette de Chabeuil, alors...
Donc, Ardéchois, ok, d'accord, Arras, Saint-Péray, mais aussi Porte-les-Valences, donc un peu Dromois quand même.
Oui, donc effectivement, on est dans un mariage mixte.
Oui.
Donc, mon épouse est dromoise, ses parents avaient une exploitation agricole sur Porte-les-Valences, de polyculture, avec un petit peu de vigne, de l'arboriculture, ainsi de suite, donc on a continué à cultiver les terrains là-bas et notamment un petit peu de vigne. Donc, on a replanté depuis quelques années.
Alors, je disais, Pascal, l'année dernière, tu avais participé à la table ronde autour des métiers du vin. Mm-hmm. Et là, on te retrouve, tu fais partie des fidèles du salon, de toute façon, très impliqués. Et on te retrouve pour parler vraiment là, du coup, du vignoble de la Tour d'Arras et de ce que du travail que tu fais sur ces vins, voilà, sur ces cépages et terroirs oubliés. Et notamment, tu as, on dirait que il y a deux choses qui te caractérisent, en tous les cas pour moi. C'est l'empélographie et la renaissance du Duresa. C'est vraiment, tu as eu deux points d'accroche de travail, que tu as porté. Et l'empélographie, c'est quoi ? Allez, petite définition.
L'empélographie, on va dire, ça vient de Empélos, donc c'est la famille dans laquelle les Empélidés, donc dans laquelle se situe la vigne. Et en gros, c'est la science des cépages. Voilà. Mmh. Alors, graphie par le fait que pendant très longtemps, jusqu'à récemment, le seul moyen qu'on avait à notre disposition pour décrire et reconnaître un cépage, c'était sur des caractères morphologiques, de forme de feuilles, de bourgeonnement, de caractères physiques, ce qu'on appelle phénotypique. Depuis les années 2000, on a eu une révolution qui s'appelle la génomie, enfin en tout cas l'ADN. Donc on a décrypté l'ADN de la vigne et donc ça nous a permis de pouvoir reconnaître des cépages par leur génétique. Donc en gros, tous les cépages qui sont conservatoires en France et dans le monde ont une carte d'identité génétique qui est décrite. Et en gros, quand on se retrouve face à un cépage qui nous est inconnu ou en tout cas qu'on n'est pas capable de reconnaître sur des critères visuels, on fait une extraction d'ADN et ça peut des fois nous conduire à découvrir ou redécouvrir des cépages qu'on croyait disparus.
Alors, est-ce qu'on a des spécialistes empélographes ?
Oui, on a des professionnels et on a des amateurs. Alors moi, je serais plutôt dans la catégorie des amateurs
très éclairés,
ou semi-professionnels. Voilà. Parce que, disons que j'ai travaillé avant de m'installer comme technicien viticole dans une administration qui s'appelait l'Onivin, qui maintenant a fusionné dans une autre organisation qui s'appelle France Agrimaire. Et dans cette organisation, on s'occupait notamment de sélection de la vigne et surtout de suivre tout ce qui est la multiplication, donc certifier l'origine des plants de vigne, leur état sanitaire et bien entendu leur variété, quoi. Donc pour ça, il fallait avoir quelques connaissances ou quelques compétences en empélographie. Donc par exemple, on visitait les pépinières et on essayait de voir si les jeunes plants de Merlot étaient bien du Merlot, ou mmh. s'il n'y avait pas des mélanges de Cabernet Sauvignon avec les Cabernet Franc, par exemple. Donc ça permet aussi d'acquérir un certain nombre de connaissances et aussi de l'intérêt pour toutes ces questions-là, quoi. Mmh.
Alors, je parlais de la renaissance du Duraisa, parce que c'est vrai que c'est un peu particulier. L'histoire me paraît intéressante dans la mesure où on parle beaucoup, on parle ici des cépages oubliés, des terroirs et cépages oubliés. On va parler aussi de vins interdits, de cépages interdits, avec Hervé Garnier notamment tout à l'heure. On mélange un peu pour certaines personnes, tout ça est un peu mélangé. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment il y a des cépages qui ont été justement interdits ou qui ont été complètement abandonnés ou qu'on n'a pas le droit de planter à certains endroits qu'on a le droit de planter à certains endroits et pas à d'autres?
En fait, il faut repartir de l'histoire. Jusqu'à les années 1870, donc on vivait une époque bénie où il n'y avait pas de... La vigne était cultivée depuis des siècles et des siècles sur ses propres racines, sans maladie, tout allait bien dans le meilleur du monde. Et puis, patatras, est arrivé successivement, en l'espace d'une dizaine d'années, le phylloxéra, le mildiou, l'oïdium. Et ça a changé absolument
radicalement
la viticulture. Donc, il a fallu trouver des solutions dans certaines ont été l'apport de la chimie, d'autres l'hybridation, le greffage, tout un tas de panoplies de solutions. Pour justement pouvoir quand même continuer à cultiver les cépages qui ont fait la réputation du vignoble français, à savoir les fameux Vitis vinifera, donc les cépages d'origine européenne. Et une des solutions a été de les hybrider avec des cépages américains qui, eux, ont eu leur évolution, leur coévolution en présence de tous ces parasites et qui ont pu développer des résistances racinaires dans le cadre du phylloxéra, parce que c'est un puceron qui altérait les racines, et aériennes dans le cadre du mildiou et de l'oïdium. Et donc, assez rapidement, une des solutions a été d'hybrider justement ces cépages vinifera, donc européens, avec des cépages américains, notamment Vitis lambrusca. Sauf que ces cépages avaient d'autres caractéristiques. Le goût n'était pas tout à fait le même. Un goût qu'on appelle souvent foxé, donc assez fort et qui ne correspondait pas tellement au goût des Français et des Européens. Et donc, en plus de ça, il semblerait que ces hybrides de lambrusca avaient tendance à avoir une part de méthanol plus importante que l'éthanol, mmh. ou en tout cas, l'éthanol, on connaît, hein, dans les Vitis vinifera, c'est l'essentiel de l'alcool, c'est de l'éthanol. Et là, il y avait aussi présence du méthanol, qui est une substance beaucoup plus toxique pour la santé humaine, d'autant plus qu'à l'époque, c'est-à-dire juste après la guerre de 14, la consommation de vin était quand même beaucoup plus importante. Et ce n'était pas un verre par-ci, un verre par-là, mais plutôt une bouteille par-ci et une bouteille par-là. Donc il y a eu des problèmes de on va dire, de santé publique qui ont nécessité l'interdiction d'un certain nombre de cépages. C'était en 1958, pour être précis. Voilà.
Et alors, pour excuse-moi, parce que c'est vrai qu'on si, je sens que si je laisse. pour revenir, est-ce que tu peux nous raconter justement pour revenir à la durée, au Duraisa ou à la Duraisa?
Oui, on va dire au Duraisa.
Au Duraisa. Ouais. C'est vrai qu'on a envie de l'appeler là. Je ne sais pas pourquoi on a envie de l'appeler Madame ce Duraisa. Bon, c'est comme ça. Je suis peut-être Madame mal. Mais pour en revenir donc à ce Duraisa, c'est quoi l'histoire, toi, avec ce Duraisa?
Alors, l'histoire, et puis pour la mettre en relation avec ce qu'on vient de dire tout de suite, un cépage qui n'est pas autorisé à la culture, c'est un cépage qui est interdit. Donc, effectivement, il y a des cépages qui ont été interdits. mais il y en a d'autres qui n'ont jamais été autorisés. Et le Dureza, en fait, fait partie de ceux-là. En 58, c'était une vraie révolution. On a créé une liste de cépages autorisés, une liste de cépages interdits et une liste de cépages tolérés.
D'accord.
Et bizarrement, les gens qui ont écrit la liste, ils ont oublié de mettre sur la liste le Dureza et un certain nombre de cépages.
Qui sont passés au travers,
soit ils n'étaient plus cultivés, soit c'était passé de mode, soit on a considéré qu'on n'avait pas forcément besoin de ce cépage, ou dans certains cas, les vignobles n'étaient pas suffisamment représentés ou représentatifs des instances. On a eu des cépages, par exemple, je vous dirai un exemple, un cépage qui s'appelle l'Anchette, qui représentait plus de la moitié des surfaces de la vallée du Drac. Alors, ça ne vous dit pas grand-chose, c'est à la limite des Hautes-Alpes, de l'Isère et de la Drôme, vers le Trièves. Et donc, ce cépage qui était quand même pas mal cultivé dans ce coin, il n'a pas été classé. Les vignes ont disparu parce que c'est des secteurs qui ont perdu leur vignoble. Mmh. Et le cépage est tombé complètement dans l'oubli jusqu'à ce qu'on le redécouvre il y a une petite quinzaine d'années. Mmh. Et pour le Dureza, vu qu'il n'était pas autorisé, on peut considérer qu'il était plus ou moins interdit. Donc il n'existait plus officiellement. Il en restait encore quelques pieds de vigne, donc on a pu à peu près retrouver la trace. Alors déjà, il y avait des écrits qui étaient dans les livres d'empélographie. On parlait quand même du Dureza. Donc c'était un cépage qui était répertorié, qui était connu. Et on a pu retrouver. Alors moi, j'ai des collègues vignerons qui m'ont dit « Ah, mais moi, je sais où il y en a à tel endroit, il y a quelques pieds. » Donc j'ai pu commencer à identifier quelques pieds, à les faire greffer. Ensuite, il y a eu une délégation d'empélographes nationales, donc les trois professionnels de France et du monde, qui sont venus dans notre coin pour marquer des souches de Dureza et puis d'autres cépages aussi, comme le Pilourcin ou le Durif. Et en fait, à partir de là, on a pu avoir une sélection de matériel végétal, c'est-à-dire de vignes suffisamment fiables pour pouvoir les multiplier. Donc j'ai commencé à en planter. En 2013, je crois qu'on a fait une demande officielle de classement du cépage. Mmh. Donc là, pour le coup, il a pu être autorisé à la culture. Et en 2019, de tête, l'IGP Collines Rhodaniennes a fait la demande de pouvoir classer justement le Dureza, mais d'autres cépages comme le Bia Blanc que je produis aussi, comme le Chouchillon, le Mornant Noir, la Sérénèse, le Robin Noir. C'est des cépages qui avaient complètement disparu aussi. Certains sont encore disparus parce que malheureusement, on n'a pas vraiment de matériel végétal pour les proposer aux viticulteurs. Mais en tout cas, ils ont déjà une vie administrative. Donc ils existent, ils ont une existence légale et maintenant les viticulteurs vont pouvoir à nouveau les recultiver et pouvoir proposer au public leur goût, leur nouveau goût si j'ose dire quoi.
Super, c'est un sacré boulot, hein. C'est ce qu'on voit, c'est quand même c'est une vraie bataille.
C'est une bataille qui est collective parce que bien entendu c'est souvent des viticulteurs ou des amateurs ou des techniciens qui s'intéressent à ces questions-là. Maintenant, on a quand même un regard bienveillant sur ces questions, sur la biodiversité. Mmh. Mais je peux vous dire qu'il y a 15 ans, quand j'ai commencé, l'intelligentsia viticole, quand vous leur parliez des vieux cépages, ça ne les intéressait pas tellement. Mmh. Et puis on disait, oui, mais non, on ne peut pas modifier le truc, c'est trop compliqué. Mmh. Tandis que là, maintenant, on a quand même une oreille beaucoup plus attentive. Et puis, quand je dis nous, parce que je fais partie d'une association qui s'appelle le Centre d'empélographie alpine, qui est basé en Savoie, et on a quand même fait classer plus d'une douzaine de cépages, je crois, peut-être une quinzaine, sur à peu près toute la région Rhône-Alpes. Et donc, le travail de l'association est reconnu. Et les gens qui comptent dans la viticulture, ils nous connaissent, ils savent qu'on n'est pas des rigolos. Et que il y a tout un travail de fond aussi sur. Et l'idée, c'est de pouvoir laisser à disposition des viticulteurs ces cépages pour pouvoir après les cultiver et puis que certains vont sans doute avoir un avenir, d'autres peut-être pas.
Mais au moins qu'on a la liberté de...
Voilà, on aura la possibilité de...
Et puis de les conserver, même s'ils ne sont pas cultivés de façon très importante,
voilà,
au moins
ça.
Qu'ils soient conservés.
Tout à fait.
Alors, merci beaucoup Pascal. On manque de temps là aussi. C'est bien dommage. En tous les cas, bravo de ce travail parce que c'est, comme je dis, il est très modeste, hein, mais c'est un vrai boulot qui a été fait, un vrai engagement aussi. Si vous voulez goûter, alors que ça soit le bien blanc. Le Duresa, et puis tu as quoi d'autre là aujourd'hui?
Ouais, bah après, notre activité de vieux cépage, c'est quand même pas ce qui nous nourrit complètement,
oui.
Aussi, hein, parce que ça reste des quantités très faibles. Donc on est aussi producteur de Saint-Joseph et de Saint-Péret. Mais c'est vrai que c'est l'intérêt de ce salon aussi, c'est de pouvoir offrir au public des goûts qu'ils n'ont pas forcément l'habitude de retrouver. Et puis des histoires aussi. Parce que à chaque un Saint-Joseph, on n'a pas à raconter ce que c'est qu'un Saint-Joseph. Tandis que vous parlez du Duresa, vous parlez du Bia, il faut parler de sa génétique, des parents, savoir d'où ils viennent, ainsi de suite. Donc forcément, ça nous demande... beaucoup d'énergie et aussi beaucoup de passion à transmettre, et on le fait avec grande joie.
Venez. On va écouter tout de suite le titre donc choisi par Pascal, c'est Kate Bush, This Woman's Work. Est-ce que tu as un mot à nous dire sur ce morceau, pour ce choix?
J'aime beaucoup cette voix de Kate Bush, cette sensualité, et puis surtout This Woman's Work, c'est que derrière tous les vignerons qu'il y a, il y a aussi beaucoup de vigneronnes et beaucoup de d'épouses et de collaboratrices, et c'est un métier qui est tout à fait ouvert
et qui se féminise et de plus en plus.
La place des femmes a toujours été très importante dans l'agriculture, mais elle l'est encore d'autant plus maintenant, oui.
Merci beaucoup Pascal.
Merci à vous.
All the things we should have said that we never said.
C'était Kate Bush, This Woman's Work. C'était le choix donc de Pascal Jamais du domaine de la Tour d'Arras en Ardèche et pas en Drôme, comme j'ai pu le dire tout à l'heure. C'est bien de temps en temps de mettre un peu les pieds dans le plat. Écoute. Alors, cher rêveur baroque, qu'est-ce que ça vous a inspiré tout ça?
Je continue, je persévère avec le vin et la cuisine. Nous sommes à Chabeuil, pays de la caillette, où bien sûr tout le monde connaît la caillette cuite au vin rouge, au four, avec un litre d'oignon. Mais je vais vous parler du vin avant le vin, donc du raisin, car il n'y a pas de vin sans raisin. Le raisin avec ses grappes qui, de l'Antiquité à l'Art Nouveau, a enjolivé, décoré de nombreuses œuvres d'art. Le raisin appelle le vin et l'ivresse, comme on le voit de Néron à Caravage, manger du raisin équivaut à boire du vin. Alors je vous ai trouvé deux recettes utilisant le raisin et le vin. Une sauce du Moyen-Âge utilisant du raisin vert, la sauce verjus, sauce un peu aigre-douce avant l'heure. Ma recette, jus de raisin vert, vin blanc, oignon, pain, miel, un peu de réduction et ça va avec tout ou presque. Une deuxième recette, bourguignonne, celle-ci qui se fait toujours, qui n'est pas une recette du Moyen-Âge. Peut-être c'est une recette du Moyen-Âge, mais bon, qui est toujours d'actualité. Les saucisses à la gêne. Alors, les saucisses à la gêne, ça n'a rien à voir avec la ville italienne. La gêne, c'est les grappes restantes sur les pieds de vigne après les vendanges qui commencent un peu à se... avant de pourrir, à se dessécher et qui prennent donc du sucre. On cuit de bonnes saucisses au vin et puis on passe la grappe avec son fruit entière à la poêle, un peu violemment, et on le mélange à ces saucisses au vin, c'est absolument délicieux. Et puis une recette traditionnelle de notre région, la daube des marinés du Rhône. Alors, qu'est-ce ? C'est simplement des couches d'oignons et des tranches de paleron alternées. Alors, il faut beaucoup d'oignons. Si on fait un kilo de paleron, on peut mettre facilement 3 ou 4 kilos d'oignons. 3 heures de cuisson et on fait une liaison avec de la moutarde et des anchois mixés. Mais pas de vin. Alors, bon, je vous parlais de la cuisine au vin, mais là, il n'y a pas de vin. Mais le résultat est proche au goût et à la vision d'un bon bourguignon. Et pour en avoir fait à plusieurs convives, ils m'ont presque pas cru quand j'aurais dit que je n'avais pas mis du tout de vin dans ce plat. Alors c'est à méditer, une cuisine sans vin, mais qui ressemble, et peut-être un jour dans un avenir quand même que j'espère lointain, on pourra faire du vin sans raisin. Eh bien écoutez, tout se termine, dit-on en France, après un bon repas avec une chanson, et pour clore... ma chronique, je vous ai trouvé une chanson de Juan Ponce du XVIe siècle. Une chanson parlant sans nul doute d'un cépage aujourd'hui oublié. Alors je vous dis les paroles traduites de l'espagnol. Ave, couleur du vin clair, saveur sans pareil, veuillez nous enivrer. Qu'elle soit sans crainte la table où il y a du vin pur. Heureux le ventre qui t'absorbe, heureux le gosier que tu mouilles, heureuse la bouche que tu laves. Louons le vin, exaltons les buveurs, confondons les non-buveurs pour l'éternité. Amen. Alors le Amen n'est pas à prendre au pied de la lettre dans ce texte parce qu'à cette époque, au Moyen-Âge jusqu'à la Renaissance, on écrivait des chansons avec des airs religieux, par exemple des mélodies grégoriennes. Donc ça pouvait passer passer du profane au sacré, du sacré au profane. Et c'est pour ça que quelquefois les textes de chansons profanes se terminaient par Amen. Voilà, on écoute cette chanson et je vous dis au revoir. Et un grand merci à Sylvie de m'avoir invité à ce salon si sympathique.
Avec plaisir, comme toujours.
Thank you.
Jordi Savall nous interprétait cette Ave Color Vini Claris, le choix de notre rêveur baroque qui nous a accompagnés cet après-midi. On accueille maintenant le dernier vigneron le dernier passionné, on va dire, de nos rendez-vous et de nos portraits de cet après-midi. On est toujours à Chabeuil. Venez sur ce très beau salon des cépages et terroirs oubliés. On est au Centre culturel. Hervé Garnier, d'abord, bonjour.
Bonjour.
Alors Hervé, je disais vigneron parce que tu es un petit peu vigneron quand même. Tu es créateur de l'association Mémoire de la Vigne, mais tu es aussi un peu vigneron.
Voilà 29 ans que je vinifie.
Oui, donc on peut dire que tu es un petit peu beaucoup. Donc toi, tu te situes dans la vallée de la Baume, donc c'est les Cévennes ardéchoises.
Les Cévennes ardéchoises, ah, tout à
c'est
fait.
C'est ça. Oui. Et je disais créateur de l'association Mémoire de la Vigne. Alors, c'est quoi cette association Mémoire de la Vigne ?
Alors, l'association Mémoire de la Vigne est née en 1993 de façon à garder un paysage. Un paysage de vignes en terrasse, en faille, comme on le dit chez nous, que j'avais vu travailler par deux frères célibataires. Et juste avant de disparaître, de mourir, ils m'ont demandé de faire les vendanges à demi.
Les vendanges à demi, c'est-à-dire ?
Moitié de la récolte pour eux, moitié de la récolte pour moi.
D'accord. Enfin,
pour nous, j'ai fait ça avec des amis, on a fait une première cuvée. Et les deux frères sont morts l'année d'après, et la vigne allait disparaître. Uh-huh. Et je ne voulais pas que cette vigne disparaisse, elle fait partie du paysage, et c'est le contraste entre le travail, le cultivé, et les forêts de chênes verts, qui avaient des centaines d'hectares de vignes autrefois. Les Cévennes ont connu un dépérissement terrible après 1956, après le gel des oliviers et des vignes d'ailleurs aussi. Et l'interdiction aussi du cépage jacquet, sur lequel qui était le cépage majoritaire des Cévennes.
C'est quoi ce cépage ? Parce qu'on on en a évoqué tout à l'heure. Je sais plus avec qui, mais c'est quoi exactement ce cépage qui a été, lui, par contre, du coup, vraiment interdit. On vient de parler à l'instant avec Pascal Jamais des cépages interdits, autorisés, oui. etc. Mais le cépage jacquet était interdit.
Absolument. Le cépage jacquet était interdit avec 5 autres cépages. En 1934, l'origine de l'interdiction, c'est 1934. Il faut penser qu'à cette époque-là, il y avait 36 millions de Français. En 1934, il y a 90 millions d'hectolitres de vin à boire. On exporte très peu, il y a 90 millions. Aujourd'hui, on produit 40 à 45 millions d'hectolitres. On en exporte 40% et on est 66 millions. Ça donne une idée. En 1934, on ne boit pas d'eau, on ne boit que du vin. Malgré ça, il y en a trop. Une raison simple, l'eau est encore dangereuse. Alors que Louis Pasteur avait dit que le vin est une boisson saine et hygiénique.
Allez, mes petits, buvez.
Alors, on mettait un peu de vin et beaucoup d'eau pour les enfants. Oui. Moitié de vin, moitié d'eau pour la maman et le papa... Le gorgeon.
Oui.
Voilà. On buvait des vins à 8-9 degrés aussi. Hein. On ne buvait pas des vins aussi alcoolisés. Souvent du vin avec de l'eau. Donc, en tout cas, en 1934, une surproduction phénoménale due à l'Algérie et au Languedoc. Il y a 19 millions d'hectolitres qui rentrent par bateau à 7. D'Algérie et un petit peu du Maroc. Des vins à 14-15 degrés qui ne correspondent pas du tout à la consommation des Français à l'époque. Languedoc-Roussillon plante de l'aramon. L'aramon, c'est un cépage très productif. On arrose les vignes, on arrive à produire des quantités phénoménales, des 350 hectolitres à l'hectare. Un grand cru, c'est 35 jusqu'à 50 à la limite. Mais après, à 350 hectolitres, on a vraiment de la bibine. On a 6 degrés, 5, 7 degrés, sans couleur, sans intérêt. Mais c'est exprès. Ces vins, donc à 6,5, étaient mélangés avec les 15 degrés qui venaient d'Algérie. Tout ça partait à Paris, Paris-Bercy, entre autres, et redistribué sur toute la France sous les marques Kiravi, Kinouri, Cep Vermeil, Marnia, etc. C'était cet assemblage. Et ces gens gagnaient énormément d'argent sur ce commerce. En 1934, il y a encore 32% de la population, petits paysans. Et les petits paysans avaient un droit de plantation de vignes pour la consommation familiale. Donc les petits paysans à cette époque-là, qui étaient écologistes par nature, l'écologie, il faudra attendre 40 ou 50 ans pour qu'on en parle. Mais à cette époque-là, les petits paysans sont écologistes par nature. Son jardin, c'est bio. Et pour ce qui est de la vigne, il a choisi des vignes résistantes à toutes les maladies. Il n'a pas besoin d'acheter du cuivre, du soufre, un atomiseur et de surveiller la vigne. Donc il avait planté essentiellement du Noah. Noah, il y en avait partout en France. C'était le vin du petit paysan. Et Noah, alors Noah Clinton, c'est la même famille, même génétique. Othello, c'est le cousin du Noah. L'Isabelle, c'est ce qui sert à fabriquer le Noah avec une vigne sauvage américaine. Jacques et Herbemont, c'est une autre histoire. Ils sont plus européens qu'américains. Et eux sont ajoutés à la liste parce que le Jacquet est malade sur les sols calcaires. C'est une vigne qui préfère les sols acides, donc parfaitement à l'aise en Cévennes. On est sur des schistes, c'est des sols acides. Les schistes, les grès, c'est acide. Par contre, les vignes de Jacquet du Bordelais, alors qu'ils étaient teinturiers dans le Bordelais, sont malades sur les sols calcaires. Donc, il est ajouté à la liste de façon à ne faire une loi qui ne touche pas que les petits paysans. Les vignons ont fait trop de vin et on va demander aux seuls petits paysans français d'arrêter de produire. C'est un petit peu lourd. Donc les vignons donnent le Jacquet et l'Herbemont au gouvernement. Ils touchent une prime à l'arrachage et tout le monde est content. Les Cévenols, par contre, vont être gravement pénalisés parce que, par contre, le Jacquet dans les Cévennes avait un marché, un débouché très intéressant. Le vin se vendait bien, facilement. Au Pinardier, le Jacquet était considéré comme vin améliorant. C'est-à-dire qu'il a le degré alcoolique, des tanins assez souples, voire de l'acidité, ce qui était très intéressant pour les côtes du Rhône. Le Jacquet faisait partie officiellement de l'assemblage Châteauneuf du Pape, Grand Cru.
D'accord.
À une certaine époque. Voilà. Mais il se retrouve malheureusement donc interdit en 34.
Et alors, et depuis, comment, parce que cette vigne, elle avait quand même des particularités aussi, tu sais, de résistance. Si les petits paysans le plantaient, c'était pas pour rien. Hein, quand tu dis, ben voilà, on ne le traitait pas. Enfin bon, voilà, il y avait. On a beaucoup parlé de bon sens depuis ce matin, et je pense que c'est vraiment un des cœurs du sujet, et que cette aujourd'hui, où on se rend compte que ben on a des difficultés et des grands défis à relever, et ben que ce peut-être cette vigne.
Alors le Jacquet, contrairement au Noah, au Clinton, etc., est plus européen qu'américain. Donc il résiste très très bien à l'oïdium. Il reste sensible à une des maladies de la vigne, le black rot. Voilà, il n'est pas parfait.
Saurait s'il y avait quelque chose de parfait.
Voilà, il n'est pas parfait. Mais les choses évoluent de façon très large. De façon, les nouveaux cépages créés par l'INRA aujourd'hui sont des hybrides. Les hybrides commencent. Certains hybrides qui avaient été totalement abandonnés après en 1956 sont réautorisés à la plantation. Il reste un dernier pas à franchir, c'est celui des interdits. Voilà. Maintenant, le président de l'IGP, par exemple Ardèche, ou IGP Cévennes, les deux présidents de syndicats, donc représentatifs de la profession, sont tout à fait d'accord pour leur réintroduction. Après, qui, quand et où, là, c'est un autre problème.
On se heurte aussi, là aussi, à des grands groupes en face de soi
on peut imaginer que ce serait peut-être une nouvelle révolution. Mais il va bien falloir à un moment donné que la viticulture échappe au problème des phytosanitaires. C'est fondamental, on est au 21e siècle et on ne peut pas, le vin est un produit plaisir. On ne peut pas imaginer qu'au 21e siècle on continue de ne pas être attentif au problème des traitements. C'est-à-dire que pouvoir produire un vin nature ou qui n'a pas eu besoin ni de soufre ni de cuivre, même le cuivre en soi est obligatoire, mais le cuivre c'est stérilisant, ça fatigue, ça abîme les sols. On ne peut pas éternellement mettre du cuivre sur les sols puisqu'à terme on le stérilise.
Bien sûr.
Donc nécessairement il y aura des évolutions et ça sera en passant par forcément des hybrides qui ont des résistances à ce type de maladie, hybrides qui existent.
Oui, c'est ça, en plus. Les solutions, elles sont là. Enfin,
la
solution, mais voilà. En tous les cas, une partie de solution est là.
Le début d'une solution, parce qu'en fait, ce qu'il faudrait, c'est multiplier, diversifier. Il faut garder une diversité, c'est-à-dire améliorer, continuer de faire de la recherche, la redonner peut-être au monde viticole, puisqu'actuellement, les seuls autorisés à faire la recherche en viticulture, c'est l'INRA. Et heureusement qu'on a aussi Pioui International qui travaille de façon autonome. Mais sinon, autrefois, c'est les vignerons eux-mêmes qui faisaient la recherche. C'est-à-dire que tous les vignerons passionnés s'amusaient, enfin, c'est-à-dire que créer de nouvelles variétés. Et c'est comme ça qu'avant les grandes maladies, on avait plus de 1000 variétés de vignes en France. Mmh. Et les maladies, ensuite le phylloxéra et puis les règlements produits en 1956 ont fait qu'on se retrouve avec une peau de chagrin de cépage. C'est-à-dire qu'avec une dizaine de cépages rouges, on a fait 80-90% du vignoble français, les productions de vin rouge en France. C'est quand même assez énorme.
Alors que comme on le voit ici, ben voilà, la diversité, elle est possible. Elle existe en plus. Enfin, je dirais elle existe au moins potentiellement. Et on a des belles choses en plus. C'est pas...
Tout à fait. Il y a un nombre de cépages très intéressants qui sont encore utilisés de façon presque anecdotique, mais mm-hmm. qui refont surface. Enfin, il y a un intérêt. Et je vois les jeunes vignerons également très intéressés par les hybrides. Mm. Ils sentent bien que le futur va vers les hybrides.
Alors toi, tu fais partie de ceux qu'on a appelés les rebelles des cépages, les bad boys bad boys de la vigne.
Un peu par hasard. Mais...
Et pourquoi par hasard?
C'est le hasard qui m'a amené au problème. À l'origine, je voulais sauvegarder mon paysage et je me suis retrouvé avec... On m'a dit oui, mais le vin est dangereux pour la santé, il rend fou, etc., etc., il est interdit. Et j'ai dû remonter un peu le fil. Alors bon, dangereux pour la santé, c'est la première chose qu'on a fait, c'est de vérifier.
Oui, quand même.
Le vin est-il dangereux pour la santé, oui ou non?
Et alors?
On a donné une bouteille à un laboratoire qui analyse chromato en phase gazeuse. Il n'y a pas une molécule qui échappe. Hein.
Oui.
Résultat d'analyse, il n'y a rien de dangereux. Par contre, entre parenthèses, petit canaillou, vous désherbez. Alors, nous ne désherbons pas. Par contre, j'avais vu cette vigne travaillée par deux frères avec un mulet, même pioché à la main. Mmh. Et à la fin de leur vie, le glyphosate était arrivé sur le marché. Ils utilisaient du glyphosate.
D'accord. Et là, c'est une...
Au glyphosate, ils associent une molécule, le duron, qui est un antigerminatif. Dans la bouteille qu'on a analysée il y a 30 ans maintenant, on a trouvé une molécule de duron. Il n'avait strictement rien à faire là pour voir comme quoi les intrants sur la vigne sont à manier avec précaution, puisqu'on peut les retrouver dans
des
la bouteille derrière.
Bien sûr.
Bon, il y a 30 ans qu'on ne désherbe plus. Hein.
Oui, donc là maintenant, il y a peu de chances pour que ça se retrouve. Vous êtes combien dans l'association?
Alors l'association, il y a les membres actifs. Les membres actifs participent aux vendanges. Pardon. Tous les ans, on retape aussi quelques murs parce que c'est des murettes, des failles, comme
oui,
on dit chez
aussi
nous.
C'est aussi la particularité. Hein.
Voilà, donc on participe à la mise en bouteille, etc. Et puis on a les membres usagers. Les membres usagers acquittent une cotisation équivalente au prix d'une bouteille de vin qu'on a le plaisir de leur offrir. Et ça nous permet de distribuer le vin à la famille des buveurs de jacquet, disons.
Oui, parce que voilà, c'est pour ça aussi qu'on vous appelle les bad boys, parce que vous continuez quand même à cultiver ce jacquet.
Absolument.
Voilà.
En Ardèche, on n'arrache pas ce qui a été planté.
C'est bien. Les Ardéchois sont un peu rebelles en général. Allez. Bah merci en tous les cas. Bah vous pouvez retrouver Hervé. Vous voyez, c'est encore une fois une personne passionnante. Il a un stand ici. Venez le rencontrer. Venez découvrir ce jacquès. Venez redécouvrir l'histoire de ce cépage. Et on termine ce temps de direct. Bah, on va te laisser repartir parce que oui, merci beaucoup en tous les cas, Hervé, d'avoir été avec nous.
Merci, au plaisir.
Avec grand plaisir. On va fermer à cette, on va finir donc ce temps de partage du 8e au 8e salon des cépages et terroirs oubliés. Nous sommes au centre culturel de Chabeuil. N'hésitez pas à venir, c'est jusqu'à 19h. Et puis pensez qu'à 15h30, donc d'ici une petite demi-heure, démarre l'initiation à la dégustation qui est donc proposée par Christophe Gerland, un des deux jeunes sommeliers du lycée hôtelier de Terre-l'Ermitage, et Florence Montferrand qui s'exprimera aussi, puisque ce sera autour des vins de cépage muscat à petits grains. Et ensuite à 16h45, dégustation du vin des premières et secondes vendanges de l'association Terre de Treille, les vignes de Chabeuil. Et puis donc jusqu'à 19h aujourd'hui et demain de 10h à 18h, vous retrouvez le salon avec là aussi le à 11h30 une dégustation des vins des premières et secondes vendanges de Terre de Treille et l'initiation à la dégustation autour de vins de cépages oubliés par Christophe Gerland en blanc et en rouge. Ça sera à 15h30. Il y a une chose qui, on va dire qu'entre bon sens, diversité et lien, on a beaucoup parlé, on a beaucoup parlé de tout ça. Et vous pouvez vous rendre compte à quel point ces gens dont je disais qu'ils sont passionnés et passionnants œuvre véritablement pour à la fois un respect de la mémoire, le maintien de la mémoire, mais vraiment débouchant sur l'avenir. Donc c'est pas du tout, il y a plein de jeunes en plus, vous verrez, et chaque année on le voit, ce sont des de plus en plus jeunes qui arrivent, et ça ça vaut vraiment le détour de venir discuter avec elles et eux et de découvrir encore une fois ces vins qui sont un peu autre chose que ce que l'industrie veut bien nous donner comme étant le meilleur. Soi-disant. Merci beaucoup à Jérémy qui a assuré la régie de ces grands directs. Merci beaucoup à Jean-Luc qui nous a fait ses chroniques du rêveur baroque. C'était Sylvie au micro. Vous restez à l'antenne, bien sûr. Vous allez avoir de la musique et puis les rendez-vous de votre samedi continue. Merci beaucoup et à très bientôt.
Mon fils, tu as déjà 60 ans. Ta vieille maman sucre les fraises. On ne veut plus d'elle au trapèze. À toi de travailler, il serait temps. Moi, je veux jouer de l'hélican. Pou, 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 pou. Dans notre petit cirque ambulant, il y a déjà un hélicon. Choisis donc plutôt d'être clown ou acrobate comme ta maman. Non, je veux jouer de l'hélican. Pou, 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 pou. N'en parlons plus, mauvaise tête. Viens, va donc voir la femme trompante. Lui, c'est haricot de mouton. Et maman, je ne veux pas que la trompette. Je veux jouer de l'hélicon. Pou, 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 pou. Mon fils, tu es bien polisson. De te moquer de la femme trompe. La femme trompe qui est si bonne. Et maman, que m'importe les trombones. Je veux jouer de l'hélicon. Pou, 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 pou. Laissons donc cette femme trompe qui a pourtant un beau tuba et va trouver l'homme serpent. Tu pourras jouer avec au bois, pas du hautbois, de l'hélicon. Pou, 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 pou. Eh bien, y a ton ami Eli qui n'est pas très intelligent. Si tu veux, va jouer avec lui. Et maman, c'est pas ça le vrai instrument. Moi, je veux jouer de l'hélicon. Pou, 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 pou. Ah, tu m'énerves, ah, ça n'est trop. Tiens, pam, 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 boum, toc, il tombe. Elle l'a tué à coup de marteau. Et l'on a fait graver dessus sa tombe. Il voulait jouer de l'hélican. Pou, 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 pou. Con. Con.